Chapitre 5. L'argent et le pouvoir. Un soir de la mi-octobre, une trentaine d'hommes tenaient réunion, toutes portes closes, chez Messer Spinello Tolomei. Le plus jeune, Guccio Baglioni, neveu de la maison, avait 18 ans. Le plus âgé en comptait 75. C'était Boccanegra, capitaine général des compagnies lombardes. Si différents qu'ils fussent d'âge et de traits, il y avait entre tous ces personnages une curieuse ressemblance dans l'attitude, la mobilité de visage et de gestes, la manière de porter le vêtement. Éclairés par de gros cierges fichés dans des candélabres forgés, ces hommes de teint brun formaient une famille au langage commun. Une tribu en guerre aussi, et dont la puissance était égale à celle des grandes ligues de noblesse ou des assemblées de bourgeois. Il y avait là les Peruzzi, les Albizzi, les Guardi, les Bardi avec leur principal commis et voyageur Boccas, les Pucci, les Casinelli, tous originaires de Florence comme le vieux Boccanegra. Il y avait les Salimbene, les Buonsignori, les Alerani et les Zaccaria de Gênes. Il y avait les Scotti de Piacenza. Il y avait le clan siennois autour de Tolomei. Entre tous ces hommes existaient des rivalités de prestige, des concurrences commerciales et même parfois des haines solides pour raisons de famille ou affaires d'amour. Mais dans le péril, ils se retrouvaient comme frères. Tolomei venait d'exposer la situation avec calme, sans en dissimuler la gravité. Ce n'était d'ailleurs pour personne une totale surprise. Il y avait peu d'imprévoyants parmi ces hommes de banque, et la plupart avaient déjà mis à l'abri, hors de France, une partie de leur fortune. Mais il est des choses qui ne se peuvent emporter, et chacun songeait avec angoisse ou colère ou déchirement à ce qu'il allait devoir abandonner. La belle demeure, les biens fonciers, les marchandises en magasin, la situation acquise, la clientèle, les habitudes, les amitiés, la jolie maîtresse, le fils naturel. « Je possède peut-être, dit alors Tolomei, un moyen d'enchaîner le Marini, sinon même de l'abattre. Alors n'hésite pas, ammazzalo, assomme-le, dit Buonsignori, le chef de la plus grosse compagnie génoise. Quel est ton moyen ? Questionna le représentant des Scotti. Tolomei secoua la tête. Je ne puis le dire encore. Des dettes, sans doute, s'écria Zaccaria. Et après ? Est-ce que cela a jamais gêné cette sorte de gens ? Au contraire, ils auront, s'ils nous expulsent, une bonne occasion d'oublier ce qu'ils nous doivent. Zaccaria était amer. Il ne possédait qu'une petite compagnie et enviait à Tolomei sa clientèle de grand seigneur. Tolomei se tourna vers lui et, sur un ton de profonde conviction, répondit « Beaucoup plus que des dettes, Zaccaria. Une arme empoisonnée et dont je ne veux pas éventer le venin. Mais pour l'utiliser, j'ai besoin de vous tous, mes amis. » Car il me faudra traiter avec le coadjuteur de force à force. Je tiens une menace. Il me faut pouvoir la sortir d'une offre, afin que Marini choisisse ou l'entente ou le combat. » Il développa son idée. Si l'on voulait spolier les Lombards, c'était pour combler le déficit des finances publiques. Marini devait à tout prix remplir le trésor. Les Lombards allaient feindre de se montrer bons sujets et proposer spontanément un prêt très important à faible intérêt. Si Marini refusait, Tolomei sortait l'arme du fourreau.
« Tolomei, il faut nous éclairer, » dit l'aîné des Bardi. « Quelle est cette arme dont tu parles tant ?»
Après un instant d'hésitation, Tolomei dit
« Si vous y tenez, je puis la révéler à notre capitaine, mais à lui seul. »
Un murmure courut, et l'on se consulta du regard.
« Si, d'accordo, facciamo così, »
entendit-on. Tolomei attira Boccanegra dans un coin de la pièce. Les autres guettaient le visage au nez mince, aux lèvres rentrées, aux yeux usés du vieux Florentin. Ils saisirent seulement les mots de « fratello »,« frère », et « d'arcivescovo », »,« archevêque ».
2000 livres bien placées, n'est-ce pas ? Murmura enfin Tolomei. Je savais qu'elle me servirait un jour.
Boccanegra eut un petit rire gargouillant au fond de sa vieille gorge, Puis il reprit sa place et dit simplement, en désignant du doigt Tolomei,
« Abbiate fiducia, ayez confiance. »
Alors, Tolomei, tablette et stylet en main, commença d'interroger chacun sur le chiffre de la subvention qu'il pouvait consentir. Boccanegra s'inscrivit le premier pour une somme considérable, 10 013 livres.
« Pourquoi les 13 livres ?» lui demanda-t-on.
« Per portar loro scarogna, pour leur porter malheur. » « Peruzzi, combien peux-tu faire ?»
demanda Tolomei. Peruzzi calculait.
« Je vais te dire, dans un moment, » répondit-il. « Et toi, Salimbene ?»
Les Génois, autour de Salimbene et de Buonsignori, avaient la mine d'hommes à qui l'on arrache un morceau de chair. Ils étaient connus pour être les plus retors en affaires. On disait d'eux, « Si un Génois te regarde seulement la bourse, elle est déjà vide. » Pourtant, ils s'exécutèrent. Certains des assistants se confiaient.
« Si Tolomei réussit à nous tirer de là, c'est lui un jour qui succédera à Boccanegra. »
Tolomei s'approcha des deux bardis qui parlaient bas avec Boccas.
« Combien faites-vous pour votre compagnie ?»
L'aîné des bardis sourit.
« Autant que toi, Spinello. »
L'œil gauche du siennois s'ouvrit.
« Alors ce sera le double de ce que tu pensais. »
« Ce serait encore bien plus lourd de tout perdre, » dit le bardi en haussant les épaules. « N'est-ce pas vrai, Boccaccio ?»
Celui-ci inclina la tête, mais il se leva pour prendre Guccio à part. Leur rencontre sur la route de Londres avait établi entre eux des liens d'amitié.
« Est-ce que ton oncle a vraiment le moyen de briser le cou d'Enguerrand ?»
Guccio, de son air le plus sérieux, répondit
« Je n'ai jamais entendu mon oncle faire une promesse qu'il ne pouvait tenir. »
Quand on leva la séance, le salut était achevé dans les églises, et la nuit tombait sur Paris. Les 30 banquiers sortirent de l'hôtel Tolomei. Éclairés par les torches que tenaient leurs valets, ils se raccompagnèrent de porte en porte, à travers le quartier des Lombards, formant dans les rues sombres une étrange procession de la fortune menacée, la procession des pénitents de l'or. Dans son cabinet, Spinello Tolomei, seul avec Guccio, faisait le total des sommes promises, comme on compte des troupes avant une bataille. Quand il eut terminé, il sourit. L'œil mi-clos, les mains nouées sur les reins, regardant le feu où les bûches devenaient cendres, il murmura
« Messire de Marigny, vous n'avez pas encore vaincu. »
Puis à Guccio,
« Et si nous réussissons, nous demanderons de nouveaux privilèges en Flandre. »
Car, si près du désastre, Tolomei songeait déjà, s'il l'évitait, à en tirer profit. Il se dirigea vers son coffre, l'ouvrit.
« La décharge signée par l'archevêque, » dit-il en prenant le document. « Si l'on venait à nous faire ce confit aux Templiers, je préférerais que les sergents de messire Enguerrand ne la puissent trouver ici. Tu vas sauter sur le meilleur cheval et partir aussitôt pour Naufle, où tu mettras ceci en cache dans notre comptoir. Tu resteras là-bas. »
Il regarda Guccio bien en face et ajouta gravement.
« S'il m'arrivait quelque malheur... »
Tous deux firent les cornes avec leurs doigts et touchèrent du bois.
« Tu remettrais cette pièce à Monseigneur d'Artois pour qu'il la remette au comte de Valois, lequel en saurait faire bon usage. Sois défiant, car le comptoir de Naufle ne sera pas non plus à l'abri des archers. »«
Mon oncle, mon oncle !» dit vivement Guccio. « J'ai une idée !» « Plutôt que de loger au comptoir, je pourrais aller à Cresset, dont les châtelains restent nos obligés. Je leur ai naguère été fort secourable, et nous avons toujours créance sur eux. J'imagine que la fille, si les choses n'ont point changé, ne refusera pas de m'aider. »«
C'est bien pensé, » dit Tolomei. « Tu mûris, mon garçon. Chez un banquier, le bon cœur doit toujours servir à quelque chose. Fais donc ainsi. Mais, puisque tu as besoin de ces gens, il te faut arriver avec des cadeaux. » « Emporte quelques aunes d'étoffe et de la dentelle de Bruges pour les femmes. Il y a aussi 2 garçons, m'as-tu dit, et qui aiment à chasser. Prends les 2 faucons qui nous sont arrivés de Milan. »
Il retourna au coffre.
« Voici quelques billets souscrits par Monseigneur d'Artois, » reprit-il. « Je pense qu'il ne refuserait pas de t'aider si le besoin s'en faisait sentir. Mais son appui sera encore plus sûr si tu lui présentes ta requête d'une main et ses comptes de l'autre. »
Et voici la créance du roi Édouard. Je ne sais pas, mon neveu, si tu seras riche avec tout cela, mais au moins, tu pourras te rendre redoutable. Allons, ne t'attarde plus maintenant. Va faire seller ton cheval et préparer ton bagage. Ne prends qu'un seul valet d'escorte pour n'être point remarqué, mais dis-lui de s'armer. »
Il glissa les documents dans un étui de plomb qu'il remit à Guccio, en même temps qu'un sac d'or.
« Le sort de nos compagnies est à présent moitié entre tes mains, moitié entre les miennes, » ajouta-t-il. « Ne l'oublie pas. »
Guccio embrassa son oncle avec émotion. Il n'avait pas besoin cette fois de se créer un personnage ni de s'inventer un rôle. Le rôle venait à lui. Une heure plus tard, il quittait la rue des Lombards. Alors, Messer Spinello Tolomei mit son manteau doublé de fourrure, car l'octobre était frais. Il appela un serviteur auquel il fit prendre torche et dague et se rendit à l'hôtel de Marigny. Il attendit un long moment, d'abord dans la conciergerie, puis dans une salle des gardes qui servait d'antichambre. Le coadjuteur menait train royal, et il y avait grand mouvement en sa demeure, jusque fort tard. Messer Tolomei était homme patient. Il rappela sa présence à plusieurs reprises, en insistant sur la nécessité qu'il avait d'entretenir le coadjuteur en personne.
« Venez, messer, » lui dit enfin un secrétaire.
Tolomei traversa trois grandes salles et se trouva en face d'Enguerrand de Marigny qui, seul dans son cabinet, finissait de souper tout en travaillant.
« Voici une visite imprévue, » dit Marigny froidement. « Quelle est votre affaire ?»
Tolomei répondit d'une voix aussi froide.
« Affaire du royaume, monseigneur. »
Marigny lui désigna un siège.
« Éclairez-moi, » dit-il. « Il est bruit depuis quelques jours, monseigneur, d'une certaine mesure qui se préparerait en conseil du roi et qui toucherait aux privilèges des compagnies lombardes. Le bruit à se répandre nous inquiète et gêne fort le commerce. La confiance est suspendue, les acheteurs se font rares, les fournisseurs exigent paiement sur l'heure, nos débiteurs diffèrent de s'acquitter.
« Cela n'est point affaire du royaume, » répondit Marigny.
« À voir, monseigneur, à voir. Beaucoup de gens, ici et ailleurs, s'émeuvent. On en parle même hors de France. »
Marigny se frotta le menton et la joue.
« On parle trop. Vous êtes un homme raisonnable, messer Tolomei, et vous ne devez pas accorder foi à ces bruits, »
dit-il en regardant tranquillement un des hommes qu'il s'apprêtait à abattre.
« Si vous me l'affirmez, monseigneur, mais la guerre flamande a coûté fort cher et le trésor peut se trouver en nécessité d'or frais. Aussi avons-nous préparé un projet. Votre commerce, je le répète, n'est point affaire qui me concerne. »
Tolomei leva la main comme pour dire « Patience, vous ne savez pas tout » et poursuivit.
« Si nous n'avons pas pris parole à la grande assemblée, nous n'en sommes pas moins désireux de fournir aide à notre roi bien-aimé. Nous sommes disposés à un gros prêt auquel participeraient toutes les compagnies lombardes, sans limite de temps et au plus faible intérêt. Je suis ici pour vous en donner avis. »
Puis Tolomei se pencha et murmura un chiffre. Marigny tressaillit, mais aussitôt pensa « S'ils sont prêts à s'amputer de cette somme, c'est qu'il y a 20 fois plus à prendre. » À lire beaucoup et à veiller ainsi qu'il le faisait, ses yeux se fatiguaient et il avait les paupières rouges.
« C'est bonne pensée et louable intention dont je vous sais gré, » dit-il après un silence. « Il convient toutefois que je vous témoigne ma surprise. Il m'est venu aux oreilles que certaines compagnies auraient dirigé vers l'Italie des convois d'or. Cet or ne saurait être en même temps ici et là-bas. »
Tolomei ferma tout à fait l'œil gauche.
« Vous êtes un homme raisonnable, monseigneur, et vous ne devez pas accorder foi à ces bruits-là, » dit-il en reprenant les propres paroles du coadjuteur. « Notre offre n'est-elle pas la preuve de notre bonne foi ?»«
Je souhaite pouvoir donner croyance à ce que vous m'assurez, car si cela n'était, le roi ne saurait souffrir ces brèches à la fortune de la France, et il lui faudrait y mettre terme. »
Tolomei ne broncha pas. La fuite des capitaux lombards avait commencé du fait de la menace de spoliation, et cet exode allait servir à Marigny pour justifier la mesure. C'était le cercle vicieux.
Je vois qu'en cela, au moins, vous considérez notre négoce comme affaire du royaume, répondit le banquier. Nous nous sommes dit, je crois, ce qu'il fallait, messire Ptolomée, conclut Marigny. Certes, monseigneur. Ptolomée se leva et fit un pas. Puis, soudain, comme si quelque chose lui revenait en mémoire, « Monseigneur l'archevêque de Sens est-il en la ville ?» demanda-t-il. « Il y est. » Ptolomée hocha la tête pensivement. « Vous avez plus que moi occasion de le voir. Votre seigneurie aurait-elle l'obligeance de lui faire savoir que je souhaiterais l'entretenir dès demain, et quelle que soit l'heure, du sujet qu'il sait. Mon avis lui importera. Qu'avez-vous à lui dire ? J'ignorais qu'il eut affaire avec vous. « Monseigneur, » dit Ptolomée en s'inclinant, « la première vertu d'un banquier, c'est de savoir se taire. Toutefois, comme vous êtes frère de Monseigneur de Sens, je puis vous confier qu'il s'agit de son bien, du nôtre, et de celui de notre Sainte Mère, l'Église. » Puis, comme il allait sortir, il répéta sèchement, « Dès demain, s'il lui plaît. »